Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil, c'est lundi, mais on est ensemble jusqu'à 9h dans Apolline Matin, lundi 9 février 2026. Dans 10 minutes, je reçois l'avocat de deux gilets jaunes qui avaient été matraqués par des CRS. C'était, souvenez-vous, il y a 7 ans, à l'intérieur du Burger King des Champs-Élysées. Le procès de 9 CRS s'ouvre aujourd'hui. Les violences policières ne sont pas assez sanctionnées. Voilà le parti pris de cet avocat, l'avocat Arié Halimi, dans ce studio dans un instant. N'hésitez pas, vous aussi, à réagir, vous le savez, au 32-16. Et puis à 7h40, on va parler de vos salaires. Vous gagnez plus ou moins que vos collègues à poste équivalent? Vous aurez bientôt la réponse parce que à partir de juin prochain, la transparence des salaires va devenir obligatoire dans les entreprises. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vos prochaines négociations? Vous êtes chef d'entreprise, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'il peut y avoir un manque de cohérence dans les entreprises? Vos réactions, appelez-nous au 32-16. Venez donc témoigner ou sur le WhatsApp d'RSMC 0612 424 424. Et puis à 8h30, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui sera mon invité dans le face-à-face sur RMC et BFM TV. Dans un instant, le journal de 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Qui sont les 6 personnes interpellées après le rapt d'une magistrate grenobloise et de sa mère? L'enquête suit son cours et d'autres suspects sont toujours recherchés ce matin. Un affront à la grandeur de l'Amérique. Sans surprise, Donald Trump est trahi. Le spectacle du rappeur Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl cette nuit aux États-Unis. Et l'OM giflé par le PSG hier soir en Ligue 1. Battu 5-0 au Parc des Princes. Revers historique dans un classique.
6 personnes interpellées et placées en garde à vue après le rapt d'une magistrate grenobloise.
Elle a été enlevée et séquestrée la semaine dernière en Isère avec sa mère. Les deux femmes ont finalement réussi à s'échapper avant d'être retrouvées blessées vendredi matin dans un garage de la Drôme. Tout est allé très vite dans cette affaire en lien avec les crypto-monnaies puisque les auteurs du rapt ont réclamé une rançon aux compagnons de la magistrate. Et à 7h, il est toujours impossible, Martin Bourdin, de définir le rôle de ces 6 suspects, tous très jeunes.
Oui, la dernière personne interpellée hier après-midi est même mineure. Les 5 autres mis en cause, eux, 4 hommes et une femme, sont âgés d'une 20aine d'années. D'après BFM TV, des suspects retrouvés en banlieue de Lyon et à Chambéry grâce à la mobilisation de plusieurs services, notamment la BRI, pour leur mettre la main dessus rapidement. 2 d'entre eux, interpellés dans la nuit de samedi à dimanche, étaient d'ailleurs sur le point de prendre un bus pour l'Espagne. Les gardes à vue doivent permettre de comprendre leur rôle précis dans l'enlèvement et la séquestration de la magistrate et de sa mère. Les deux femmes enlevées près de Grenoble dans la nuit de mercredi à jeudi avaient réussi à se libérer elles-mêmes pour ensuite taper sur la porte du garage où elles étaient enfermées, prévenir le voisinage et s'échapper. D'autres personnes sont toujours recherchées dans cette affaire.
Il risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. 9 CRS devant la justice jugés pour avoir matraqué des gilets jaunes réfugiés dans un Burger King. Les faits remontent au 1er décembre 2018, journée particulièrement violente marquée par des dégradations autour de l'Arc de Triomphe à Paris. Autre procès, celui d'une professeure de français jugée en appel pour harcèlement, soupçonnée d'avoir régulièrement humilié l'une de ses élèves, Eva L, 11 ans. Elle s'était donné la mort en 2019. 2 autres cas de harcèlement seront étudiés lors de ce nouveau procès. En première instance, l'enseignante avait été relaxée.
Et puis c'était l'événement de la nuit aux États-Unis, le Super Bowl.
Remporté par les Seahawks de Seattle face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, au-delà de l'enjeu sportif, tous les regards étaient tournés vers le spectacle à la mi-temps de cette finale de football américain avec la prestation du rappeur Bad Bunny, anti-Trump déclaré. Le Portoricain avait livré, on s'en souvient, un discours très offensif la semaine dernière contre la police de l'immigration au Grammy Awards. Antoine Lard, à Washington pour RMC ce matin. On était curieux de savoir si Bad Bunny allait de nouveau s'en prendre au président américain. Ça n'a pas été le cas et pourtant, ça n'a pas empêché Donald Trump de réagir.
Oui, sur son réseau social, Donald Trump, très offensif, dénonce la performance de Bad Bunny. Il dit que c'est un affront à la grandeur de l'Amérique. Il s'en prend aussi aux chorégraphies, jugées dégoûtantes des danseurs qui l'accompagnaient. Et puis, il critique ses chansons en espagnol. Personne ne comprend un mot de ce que dit ce type, poursuit Trump, oubliant ou faisant semblant d'oublier les 41 millions d'hispanophones vivant aux États-Unis. Ce concert du Super Bowl était pourtant avant tout un moment festif. Bad Bunny a enflammé la mi-temps avec ses tubes salsa et reggaeton, un spectacle pour célébrer Porto Rico et la diversité. Le seul message finalement qu'il a délivré à la fin du concert a été un message d'unité. Ensemble, nous sommes l'Amérique, a conclu en espagnol le chanteur.
Il est utilisé chaque jour par des millions d'habitants en Île-de-France. Le Pass Navigo qui permet d'utiliser les transports en commun. Et il a fait l'objet du premier couac de la campagne des municipales à Paris avec la réaction de Sarah Knafaud, candidate reconquête pour la mairie de Paris, Romain Hougue.
Oui, Sarah Knafaud était l'invité de Marc Fauvel hier soir sur BFM TV. Vient alors cette question.
Si je vous demande le prix du Pass Navigo mensuel à Paris.
Annuel 52.
Non.
Dites-moi.
Annuel 52. Bah, si c'était 52 euros par an, ça ferait des heureux. Hein.
52 euros annuels, soit 4,30 euros par mois. C'est tout simplement 20 fois moins que le prix réel de 90,80 euros par mois. Un gros lapsus tente de se justifier la candidate reconquête quelques moments plus tard sur ses réseaux sociaux. Mais trop tard, ses adversaires aux élections municipales multiplient les talques. Pierre-Yves Bournazel, tête de liste Horizon Renaissance, dénonce une méconnaissance du quotidien des Parisiens. Dans le camp d'Emmanuel Grégoire, candidat de l'Union de la Gauche, on pointe l'étendue de sa déconnexion. Des connexions jugées même disqualifiantes parmi les soutiens de Thierry Mariani, tête de liste du RN dans la capitale.
Méconnaissance du quotidien, déconnexion des politiques, ça inspire notre voix de droite ce matin, comme tous les lundis. Et c'est Charles Consigny, ce sera donc à 7h50. Ne manquez pas sa réaction et son billet.
125 000, c'est le nombre de voitures déclarées volées en 2024 en France, chiffre en baisse. Pour autant, la France reste championne d'Europe dans le domaine avec un vol toutes les 4 minutes. Les détails à suivre dans le journal de 7h30.
Et je suis vraiment désolé Thibaut, mais je suis obligé de le dire. Marseille a été humilié hier soir à Paris.
Voilà, merci, au revoir.
Je suis désolé.
Face au rival parisien, donc, l'OM n'a pas montré grand-chose hier soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1, si ce n'est le néant battu 5-0. Une claque monumentale qui restera dans les annales et marque Arthur Perrault, le grand retour du PSG à la hauteur de son statut.
Oui, après un début de saison en dents de scie, Paris sonne la révolte. Le plus large succès de son histoire dans le classique face à l'ennemi juré marseillais. Une première place au classement, l'entraîneur Luis Enrique est aux anges.
Aujourd'hui, c'est un jour très important pour nos supporters. Je pense qu'on a marqué encore l'histoire parce que jamais on avait gagné 5-0 à Marseille dans un classique. C'est important et c'est quelque chose que nous savons que nos supporters méritent.
Pour retrouver des couleurs, Paris s'en est remis à une prestation XXL de l'attaquant Ousmane Dembélé. Deux buts et une passe décisive. Pour le Ballon d'Or 2025, le grand PSG de retour.
Et c'est un match important pour tous les Parisiens. Et c'est une belle manière de faire passer un message en gagnant ce match-là. On a bien négocié la première partie de saison. On sait que les moments importants vont arriver. Que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, on a Lens qui sont toujours là derrière. Et voilà, on va donner le maximum.
Un état de grâce que Paris devra confirmer en Coupe d'Europe avec un déplacement dans une semaine à Monaco.
Et au classement, l'OM recule d'une place, quatrième ce matin derrière Paris, Lens et Lyon. Autre classement, et celui-là, il est important. Celui des nations au jeu de Milan-Cortina. La France est septième ce matin grâce à ses deux premières médailles. La première en argent sur le ski athlon pour Mathias Desloges. L'autre, elle est en or pour le relais mixte en biathlon. Perrault, Fillon-Maillet, Jean Monod et Simon. Quatre Français champions olympiques à l'issue d'une course parfaite qui lance l'équipe de France de la discipline de la meilleure des manières.
Oui, sur le podium, médaille d'or autour du cou, entouré de ses coéquipiers. Lou Jean Monod ouvre grand les yeux.
Oui, je suis fière de faire partie de cette équipe qui est très forte. Et c'est fou les émotions que ça procure, c'est difficile à mettre des mots dessus. Je fais mon mieux pour me gaver de la moindre seconde, et parce que je sais que demain ce sera fini et voilà, je profite.
Comme elle, Éric Perrault disputait sa toute première course aux Jeux Olympiques et il réalise déjà un premier rêve.
Quand on le vit, c'est intense, c'est court, puis c'est simple finalement. La Marseillaise, c'est des moments magiques, on n'en vit pas beaucoup dans notre vie et ces moments-là resteront forcément gravés à jamais.
Un titre qui soulage le poids des attentes immenses sur les épaules de l'équipe de France de biathlon.
Ça compte énormément de lancer l'équipe, de se lancer nous-mêmes, de lancer tout le collectif France qui est aussi sur d'autres sites.
L'entraîneur de l'équipe de France masculine, Simon Fourcade.
Elle fait du bien, elle récompense la meilleure nation actuelle en biathlon. Elle est légitime, c'est une grosse satisfaction d'avoir réussi à tenir ce rôle et à l'assumer jusqu'au bout.
Julia Simon, la dernière relayeuse, contemple sa première médaille d'or olympique.
Ouais, elle est belle, elle est sympa. Hein. Ouais, on espère que c'est la première d'une petite série, on verra.
La Marseillaise pourrait bien devenir le tube de ces JO pour le biathlon.
Julien Richard, qui a commenté donc cette course. On espère qu'il y aura d'autres médailles aujourd'hui, avec notamment le combiné alpin masculin. Vous ne manquerez rien de cette nouvelle journée olympique sur RMC Radio officielle des Jeux de Milan-Cortina.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h08. On part au 32-16. Johan qui nous appelle de Reims. Bonjour Johan.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Johan? Vous vouliez... Merci, mais oui, c'est la Sainte Apolline, c'est sympa d'y penser. Merci Johan. Johan, dites-moi, cette obligation, les entreprises qui vont devoir donner les salaires, les grilles et puis les salaires précis de toute l'entreprise, ça ce sera en juin prochain. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne nouvelle ou que ça vous inquiète?
Moi, je trouve que c'est une aberration pour la simple et bonne raison que, en gros, on favorise encore la médiocrité. Dans le sens où le salarié qui est efficace, qui est bon, qui est ponctuel, ouais. Il va être augmenté beaucoup plus facilement. Et celui à côté qui, lui, est beaucoup, on va dire, fait son travail de base sans essayer de s'améliorer, va pouvoir réclamer le même salaire.
Ce que vous voulez dire, c'est que lorsqu'il y avait une individualisation davantage effectivement des salaires, on pouvait augmenter ceux dont on estime qu'ils sont plus méritants, quoi.
Bien sûr, c'est exactement ça. Mais une entreprise devrait fonctionner par méritocratie. Le problème, c'est qu'on est en train de mettre des règles dans tout qui lisent tout et qui font que. En gros, on favorise la médiocrité, quoi, tout simplement.
Vous redoutez que ça tire tout le monde vers le bas, quoi.
Exactement.
Dans votre entreprise, vous, Johan, ça marche comment?
On est plus ou moins mérite. On a une grille de base, parce qu'on est, on n'a pas le choix, parce qu'on est obligé.
Ouais.
Mais la personne qui est plus compétente, forcément, est mieux payée. Et c'est tout à fait logique. On a des personnes, dès qu'on a une heure sup à faire, qui sont les premiers à dire on y va. Ceux-là, c'est normal qu'ils soient mieux payés et qu'ils soient récompensés, en fait.
Merci Johan de votre réaction et de votre témoignage ce matin. Johan qui nous appelait de Reims, ne manquez pas à 7h40 dans une petite demi-heure maintenant toutes les explications, comment ça va fonctionner, quelles conséquences, et d'ici là effectivement vos appels au 32-16 sur cette transparence obligatoire désormais des salaires. Il est 7h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les violences policières ne sont pas assez sanctionnées. Voilà votre parti pris ce matin. Ari Halimi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'avocat de deux manifestants qui ont été roués de coups, frappés à coups de matraque, le tout filmé lors de l'acte 3 des Gilets jaunes. C'était il y a plus de 7 ans. Souvenez-vous, l'épisode du Burger King sur les Champs-Élysées. Le procès de 9 CRS débute aujourd'hui. On vous écoute dans un instant. Il est 7h11.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On va se replonger ce matin dans le mouvement des Gilets jaunes. Vous vous souvenez, ce fameux jour du 1er décembre 2018, troisième très grosse journée de mobilisation à l'époque et des débordements. L'Arc de Triomphe saccagé, des manifestants, certains pacifiques qui se retrouvent dans le Burger King pour tenter justement d'y trouver refuge, le Burger King des Champs-Élysées. Bonjour Ari Halimi, vous êtes l'avocat de Manon et Maxime. Ce sont deux manifestants qui ont été roués de coups, frappés à coups de matraque par des CRS dans l'enceinte du fast-food. Le tout a été filmé, on voit sur les images et on le voit d'ailleurs sur RMC Story pour ceux qui nous regardent, Canal 23. Votre parti pris ce matin, c'est que les violences policières, elles ne sont pas assez sanctionnées. Ce procès, pour vous, doit être exemplaire. Procès donc de 9 CRS de la compagnie 43 qui seront jugés à partir d'aujourd'hui.
Effectivement, il suffit de voir le délai écoulé depuis le moment des faits. 7 ans, un peu plus de 7 ans même. C'est astronomique pour la justice. C'est également extrêmement long pour les victimes. Il faut bien se mettre dans la tête de deux personnes qui viennent juste manifester parce que le carburant augmente trop, qui viennent pour la première fois sur Paris, qui se retrouvent dans un nuage de gaz, qui n'arrivent plus à respirer, qui essaient de se réfugier dans un endroit et qui finissent matraqués par des policiers. Et c'était la première fois qu'ils avaient une confrontation avec des policiers. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Ils travaillaient, ils avaient une vie, ils avaient un enfant. Donc c'est quelque chose que la justice devrait prendre en considération et qu'elle ne prend pas suffisamment en considération.
Que répond la hiérarchie de la police ?
La hiérarchie de la police répond toujours contexte, contexte, contexte. Et c'est vraiment le slogan habituel. C'est vrai que cette journée a été probablement l'une des journées les plus violentes entre les Gilets jaunes et les forces de l'ordre. Mais la question, c'est pourquoi et comment est-ce qu'on en est arrivé à une telle confrontation entre la population française, une partie de la population française, et des policiers. C'est ça qui vraiment aujourd'hui intrigue encore et que le procès va peut-être essayer de déterminer.
Cette journée-là, c'est effectivement une journée de bascule. C'est la fameuse journée où on a tous en tête l'image du saccage d'une partie de l'Arc de Triomphe. Au fond, est-ce que vos deux clients sont un peu les boucs émissaires de cette violence-là ? C'est-à-dire que se retrouvant, eux, à portée de main des CRS, est-ce que votre théorie, c'est qu'ils se sont en quelque sorte vengés sur eux de la violence qui avait eu lieu un peu plus haut sur les Champs-Élysées ?
Ah bah, il est indéniable que ce jour-là, il y a eu une manifestation de vindicte et une explosion de colère. Après, ils avaient commencé à 5 heures du matin, hein, les policiers. C'est évident. Maintenant, la question, c'est pas de savoir qui.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'ils ont commencé à 5 heures du matin? C'est qu'ils sont au bout, ils sont épuisés eux.
Mais ils ont même pas été remplacés. Ils avaient même pas mangé ce jour-là. C'est ce qu'on voit dans le dossier. C'est qu'il y avait une seule compagnie et ils le disent eux-mêmes et leurs commandants le disent. Ils le disent tous dans le dossier. Et c'est quelque chose qui va manquer aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. C'est que ceux qui ont donné les ordres, la DOPC, la préfecture de police, ne sont pas sur le banc des prévenus. Et pourtant, la désorganisation du maintien de l'ordre, elle vient également de leur part.
Pour vous, au fond, il y a certes les 9 prévenus, 9 CRS, qui sont sans doute ceux qui ont porté les coups. Quand je dis sans doute, c'est que la hiérarchie elle-même, elle dit on n'est pas complètement sûr de pouvoir reconnaître nos agents.
Ah ben, ils ont même évité de les reconnaître pendant pratiquement un an ou deux.
Ils n'ont pas voulu les reconnaître, c'est ce que vous dites.
Ils n'ont pas voulu les reconnaître et eux, y compris, hein, quand on leur montre les images, ils se reconnaissent eux parce qu'ils ont accepté finalement de se sacrifier par rapport à leur hiérarchie, mais ils refusent de reconnaître les autres, leurs collègues qu'ils connaissent parfaitement au sein du Burger King.
Quand vous dites qu'ils ont accepté de se sacrifier pour la hiérarchie, c'est très fort ce que vous dites. C'est-à-dire que pour vous, en réalité, c'est l'institution CRS, en quelque sorte, qui est responsable de ce qui s'est passé, y compris jusque dans ce Burger King, par un manque d'organisation, par un manque d'anticipation. Plus que ceux qui ont porté les coups à proprement parler.
Oh, moi, je remonte beaucoup plus loin. Moi, j'essaie de réfléchir à la chaîne de responsabilité dans ce qui s'est passé pendant le mouvement des Gilets jaunes et ce jour-là en particulier. Je ne vois pas d'autre possibilité que d'envisager une responsabilité politique, c'est-à-dire celle du gouvernement, celle du président de la République. Je sais que ça peut remonter très loin, mais il n'y aurait pas eu autant de personnes dans la rue avec une colère évidente s'il y avait eu une prise de considération de simples personnes qui avaient peur, qui avaient une désespérance économique. Et cette colère, elle s'est exprimée dans la rue, certes, et on a envoyé pas suffisamment de policiers pour les encadrer, pas suffisamment de stratégies de maintien de l'ordre pour essayer d'éviter ces débordements. Et oui, ça a entraîné une violence dont tout le monde a été victime ce jour-là.
Et ce qui est sûr, c'est que je poserai la question tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sera mon invité à 8h30. Mais tout de même, quand je vous écoute, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas aussi accepter l'idée qu'il y a une forme de responsabilité de ceux qui commettent les violences? Il ne s'agit pas de vos clients, en l'occurrence, mais vous avez l'air de dire que cette journée, voilà, il y avait une colère. Malgré tout, à un moment, quand on s'en prend, par exemple, physiquement à l'Arc de Triomphe, on a aussi une responsabilité.
Alors, il faut vraiment distinguer les biens des personnes, hein. Mais de toutes les manières, ces personnes qui ont commis des dégradations, elles ont été jugées, pas forcément toutes, parce qu'elles n'ont pas toutes été identifiées, mais elles ont été jugées et massivement pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ah non, la colère n'excuse rien. En revanche, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Pourquoi est-ce qu'on a eu autant de débordements? Pourquoi est-ce qu'on a eu une période insurrectionnelle qui a failli faire tomber la République indéniablement ce jour-là? On a vu tous ces gilets jaunes qui sont arrivés pratiquement proche de l'Élysée alors qu'ils se sont retenus, mais où il y a eu un risque pour la République ce jour-là.
Et d'autres, effectivement, où la République a vacillé, clairement, pour vous ce jour-là.
Objectivement, oui, bien sûr que ce jour-là, ça a été un moment fatidique.
Merci beaucoup, Maître Arié Halimi, d'avoir pris le temps de venir ce matin, au matin donc de l'ouverture de ce procès. Vous êtes l'avocat de Manon et Maxime, partie civile dans le procès des 9 CRS qui s'ouvre aujourd'hui et qui aura lieu jusqu'à jeudi. Merci à vous. Il est 7h20, Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, hier, des militaires français ont débarqué sur l'île de Ré pour un exercice grandeur réelle. Est-ce que ça sert à quelque chose, ces exercices militaires?
Alors, ça sert à se préparer, mais la vérité, c'est qu'on ne peut jamais rien prévoir. Les guerres ne ressemblent jamais à ce qu'on avait imaginé.
Vous nous le direz dans un instant. Il y a aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes sur RMC. Il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et on va remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, l'armée française hier a lancé un exercice militaire de grande ampleur. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Une opération qui va durer jusqu'au mois de mars, qui va mobiliser plus de 12 000 soldats, 25 navires de combat, dont le fameux porte-avions Charles de Gaulle. Il y aura aussi 140 avions et hélicoptères et 1200 drones.
Oui, et le nom de cette opération, c'est Orion 26. C'est le plus grand exercice militaire depuis la guerre froide sur notre territoire. Des pays alliés y participent, alors les Européens bien sûr, mais aussi des Américains. La France veut montrer qu'elle est prête à faire la guerre. C'est aussi un signal envoyé à Moscou. Nous n'avons pas peur.
Est-ce que les exercices militaires nous préparent vraiment à la guerre?
Oui, l'entraînement, c'est décisif. Une fois qu'on a dit ça, les guerres ressemblent rarement à ce qu'on avait imaginé. Elles nous prennent toujours par surprise. Prenez par exemple la Première Guerre mondiale en 1914. Cette guerre, la France s'y préparait depuis 40 ans. On ne parlait que de ça et on était convaincus de trois choses. Un, cette guerre serait courte. Deux, elle serait peu meurtrière. Trois, les soldats devraient tout le temps être en mouvement.
C'était la fameuse fleur au fusil. Eh ben, ça n'a pas du tout été comme ça.
Eh ben non, c'est l'exact contraire qui s'est passé. La guerre a duré 4 ans, donc pas du tout courte. Elle a fait plus d'un million de morts côté français, donc très meurtrière. Et les soldats ont passé leur temps dans des tranchées, donc ils n'étaient pas tout le temps en mouvement. Et d'ailleurs, ces tranchées, absolument personne ne les avait prévues dans les plans.
Est-ce qu'on en a tiré les enseignements ?
Eh bien, surtout qu'il fallait se protéger contre l'Allemagne, forcément. Donc, on construit une gigantesque muraille à l'est, sur la frontière. Ça s'appelait la ligne Maginot. 750 km de béton, de barbelés, de souterrains, de canons. Tout ça à la pointe de la technologie. Ça a coûté à peu près 3 milliards d'euros d'aujourd'hui. Mais au moins, on était barricadés. Plus rien à craindre.
Et pourtant, là encore, ça n'a servi à rien.
Et oui, ou presque. En 1940, quand l'armée allemande attaque la France, elle s'est contentée de contourner en partie la ligne Maginot, en passant par la Belgique et les Ardennes. C'était assez logique. Résultat, une pagaille totale et la déroute d'une armée française complètement dépassée.
Quel est le plus grand exercice militaire de tous les temps ?
Eh bien, c'est celui qui a préparé le débarquement allié en Normandie. C'est la plus grande opération militaire de tous les temps. Pendant 2 ans, des millions de soldats vont s'entraîner nuit et jour en Angleterre. Et attention, on s'entraînait à balles réelles. Une statistique peu connue, Apolline, il y a eu plus de morts à l'entraînement du débarquement que pendant le jour du débarquement, absolument. Et le jour J, d'ailleurs, beaucoup de choses n'ont pas fonctionné. Par exemple, on avait prévu des chars amphibies, donc des chars qui étaient capables d'aller sur l'eau. Eh bien, la plupart ont coulé à pic quand on les a mis à la mer. De même, on a bombardé les défenses allemandes pendant des heures. Quasiment aucune n'ont été touchées. Mais le débarquement a quand même réussi. Les exercices militaires, ça sert à préparer les individus, à les mettre en condition psychologique, physique, tout ça pour le combat. Mais la guerre reste un exercice imprévisible.
Merci Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Il est 7h24, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je reçois le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Eh oui, notre collègue. Parce que, non mais ils travaillent pour la même chaîne que nous, on va pas se mentir, ils travaillent pour RMC Story parce qu'ils produisent la moitié de leur programme 100 jours avec les policiers de la Côte d'Azur et puis Flick Story spécial police de la route et puis 100 jours avec la brigade de Saint-Amand-les-Eaux, mon policier chez les nudistes, on a retrouvé la 7e compagnie de CRS, etc. etc. Donc bienvenue collègue. Laurent Nunez qui défendra le projet de loi sur la sécurité du quotidien, j'allais dire la sécurité de quotidien, non c'est pas ça du tout, on n'a pas besoin de faire une loi pour protéger Yann Barthes. Non mais il a besoin de personne pour se protéger. 1m80, 100 kilos. Vous savez qu'il organise des combats de free fight clandestins dans les bars à kombucha du 11e, Yann. Donc là, non. Sécurité du quotidien, c'est-à-dire les rave parties sauvages, les rodéos urbains, les refus d'obtempérer. Il y a 77 refus d'obtempérer par jour, 78 en comptant Rachida Dati. Vous avez vu que Sébastien Lecornu a demandé à Rachida Dati de quitter le ministère de la Culture. Elle lui a répondu « Je suis pas ta boniche !» Donc Laurent Nunez doit maintenant expulser une forcenée du ministère.
« Sors d'ici, Rachida, t'es cernée !»«
Jamais !»«
Rachida, on te donne la présidence de l'Institut du monde arabe. Ça te dit pas de valoriser la culture islamique ?»
« J'en ai rien à foutre de diriger Radio Nova !» Oula, Rachida, on se calme. Elle veut pas partir parce que elle veut pas donner le signal de...
C'est un humour de niche.
Oui, c'est très niche. C'est très niche. C'est un humour d'Ati. Elle veut pas partir parce qu'elle veut pas donner le signal de je quitte le gouvernement. Non, elle veut donner ce signal-là plutôt que le signal de je me fais virer par Lecornu.
Oui.
Non, parce que c'est vrai que ça craint. Enfin, je veux dire, c'est un peu la honte de se faire plaquer par Lecornu, quoi. Vous avez vu la dégaine avec le pull mou, le cabas avec des poireaux. T'as envie de contrôler, quand même. Laurent Nunez était ce week-end à Charleville-Mézières pour y annoncer la création d'une brigade de lutte contre les stupéfiants. C'est Bernard de la Villardière qui va être content. D'habitude, ses reportages, il va en Thaïlande, au Colombie, au Mexique. Là. Bonjour. Je suis Bernard de la Bernardière et je vous propose une plongée en enfer. Violence, drogue, magasin fermé à 18h et ennui profond. Bienvenue à Charleville-Mézières, une région sinistrée où même les tueurs en série se droguent pour tenir. Et puis vous reviendrez avec le ministre de l'Intérieur sur le terrible fait divers qui a eu lieu hier soir dans le 16e arrondissement, qui m'a été rapporté par un Mathieu Béliard hilar. 11 Marseillais battus et humiliés par un groupe de millionnaires parisiens au Parc des Princes. Mathieu qui me disait, il en restait plus rien, c'était jouissif. Eh ben, notre actionnaire marseillais appréciera. On verra ce qui va vous arriver. Rendez-vous avec Laurent Nunez à 8h30.
Arnaud Demanche, rendez-vous avec vous à 8h20. Il est 7h27.
Détendez-vous sur RMC avec EPSI, une école du réseau compétences et développement.
Et dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Juste après le journal, est-ce que vous savez, vous, combien gagnent vos collègues? Eh bien, à partir de juin prochain, les entreprises seront obligées de révéler les salaires. Comment ça va fonctionner? Quelles conséquences? Est-ce que ce sera un moyen pour mieux négocier avec votre employeur? Ou est-ce qu'au contraire, vous redoutez le règne de la transparence? Et peut-être que ça tire tout le monde vers le bas, comme nous le disait un auditeur tout à l'heure. Je vous attends au 32-16, justement, pour réagir et pour en débattre. À 7h50, notre voix de droite, comme tous les lundis, une candidate à la mairie de Paris qui ne connaît pas le prix des tickets de métro, enfin désormais du pass Navigo. Charles Consigny, très en colère contre les politiques qui sont déconnectées du quotidien et de la réalité. Il nous le dira donc à 7h50. Il est 7h27. A tout de suite pour la météo du journal. Il est 7h29 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Vous pensiez votre voiture ultra moderne davantage protégée face au vol? Eh bien c'est raté dans 9 cas sur 10. C'est son système électronique qui est utilisé pour un vol garanti sans effraction. Les nouvelles techniques des malfaiteurs et leur parade dès le début de ce journal. La prof de français accusée d'avoir harcelé la jeune Eva L. De retour devant la justice pour son procès en appel, plus de 6 ans après le suicide de la collégienne de 11 ans. Et puis la France va briller à partir de ce soir en patinage artistique avec le tout nouveau duo Cizeron et Fournier-Baudry.
Il est 7h30. Dans maximum 4 minutes, un véhicule sera volé en France.
Un vol toutes les 4 minutes, soit 125 000 véhicules en 2024. Cela fait de nous les champions d'Europe en la matière. Conclusion d'une étude Coyote qu'RMC vous dévoile ce matin. Et on peut dire que les voleurs ne manquent pas d'ingéniosité. D'ailleurs, peut-on encore parler de voleurs ou bien de pirates informatiques? Car c'est le point faible de nos véhicules modernes, leur système électronique. Dans 9 cas sur 10, c'est ce qui permet le vol. Rachel Sadodine.
Fini le pied de biche. Les voleurs 2.0 pratiquent le mouse jacking. Concrètement, ils captent les ondes émises par les clés du véhicule grâce à des outils électroniques très accessibles selon Pierre-Olivier Marie du site spécialisé dans l'automobile caradisiaque.com.
Vous allez les trouver sur Internet en cherchant environ 2 minutes 30. Il n'y a même pas besoin d'aller sur le dark web. Ce sont des appareils qui, en plus, valent assez peu cher, quelques centaines d'euros.
Pour se prémunir de ce genre de vol, deux solutions. Ranger systématiquement ses clés dans un boîtier anti-piratage ou alors...
Finalement, le bon vieux bloc volant. Vous savez, le truc de papa, là, c'est assez rustique, c'est assez simple, mais ça fait perdre du temps aux voleurs, et les voleurs, ils ont horreur de perdre du temps, ils aiment bien que ça aille vite.
L'antivol pour pédale est lui aussi très efficace contre une autre technique électronique, les vols à l'OBD, autrement dit, le fait de passer par la prise en principe réservée au contrôle technique pour ouvrir et démarrer le véhicule.
7h31, c'est une affaire qui a beaucoup marqué les Français. Elle est de retour devant la justice aujourd'hui. Le suicide en 2019 de la jeune Eva L, 11 ans à l'époque, est victime de harcèlement dans son collège d'Herblay-sur-Seine en région parisienne. Harcèlement auquel sa professeure de français aurait participé. C'est elle qui revient à la barre pour son procès en appel après avoir été relaxée en première instance. Un procès très attendu des parents de la jeune fille que vous avez rencontrée pour RMC, Julie Brault.
Sébastien et Marie Dupuis n'en démordent pas. Leur fille Evaëlle a été régulièrement pointée du doigt, mise à l'écart, installée au fond de la classe et moquée par sa professeure de français. Un acharnement devenu invivable pour leur petite fille de 11 ans.
Ce qu'on dit et ce qu'on veut que ce soit reconnu, c'est qu'elle a participé à ce mal-être, qu'elle l'a initié, qu'elle l'a légitimé avec une position de professeur. D'adulte, ça c'est inexcusable.
En première instance, le tribunal a pourtant estimé manquer de preuves pour condamner l'enseignante de 63 ans, le harcèlement n'étant, je cite, pas suffisamment circonstancié. Des arguments révélateurs du manque de courage de la justice, estime la mère de la fillette.
Cette professeure est poursuivie pour 2 autres élèves. Ben pour eux, c'est important, ils sont vivants. Dire non, ce n'est pas toi à 11 ans qui devais mettre fin à cette situation. C'est nous adultes, on aurait dû le faire. Malheureusement, ça fera pas revenir notre fille, mais c'est ça la bataille en fait qu'elle a lancée. Hein.
Poursuivi pour harcèlement moral sur Evaëlle et sur 2 autres élèves lors de ce nouveau procès, la professeure de français continue à clamer son innocence.
Il est 7h33 sur RMC, une semaine jour pour jour après l'adoption du budget de l'État. Sébastien Lecornu se projette sur la suite. Le Premier ministre réunit cet après-midi tous ceux qui soutiennent son gouvernement et il va dérouler sa feuille de route, Thomas Becker.
Oui, avec notamment deux projets de loi dans les prochaines semaines, un contre la fraude, l'autre d'urgence sur l'agriculture, sans compter ceux qui sont préparés depuis des mois par les ministres respectifs sur la justice, le logement ou la sécurité. À Matignon, tout à l'heure, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, répétera son souhait d'une adoption rapide de la loi sur la fin de vie qui revient dans l'hémicycle la semaine prochaine. Laurent Wauquiez, qui sera aussi autour de la table, demandera que le gouvernement reprenne la proposition de loi LR sur la légitime défense des policiers. Sébastien Lecornu devra trancher, car le calendrier est serré. L'Assemblée nationale fermera ses portes 3 semaines au mois de mars à cause des élections municipales. Et puis surtout, il y aura beaucoup de débats sur chaque texte, parce que si Sébastien Lecornu n'a pas été censuré, il n'a en revanche toujours pas de majorité.
Figure acrobatique en vue pour le Premier ministre, qui pourrait s'inspirer de notre duo de danse sur glace. Guillaume Cizeron remet en jeu son titre olympique à partir de ce soir aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina avec sa nouvelle coéquipière Laurence Fournier-Baudry, le couple qui n'a qu'une année de pratique à son compteur, Arnaud Valadon, mais ça promet.
C'est du jamais vu dans le monde du patinage, une alchimie tout de suite trouvée grâce à une solide relation, explique la franco-canadienne Laurence Fournier-Baudry.
Notre amitié, c'est vraiment ce qui fait en sorte qu'on apprécie les moments sur la glace et hors la glace. On est capable d'avoir du fun ensemble.
La préparation sportive est réussie, champion d'Europe il y a un mois. En coulisses, plusieurs affaires. La sortie du livre de Papadakis, mettant en cause Cizeron pour son comportement. Ce dernier a mis en demeure son ancienne partenaire. Fournier-Baudry vit, elle, avec les accusations d'agression sexuelle visant son conjoint et ex-partenaire sur la glace, Nikolai Sorensen, le tout avec un juge américain influent qui a fait changer la musique du programme court. Exit Depeche Mode, place à Vogue de Madonna. Guillaume Cizeron ne souhaite se concentrer que sur le sportif.
C'est vrai qu'on est un petit peu dans notre bulle. C'est vrai qu'on n'a pas le droit à l'erreur, nous comme nos concurrents, et c'est un petit peu ça qui fait l'excitation du moment.
Ce soir, lors du programme court, les Français devront faire au moins jeu égal avec le duo américain avant le verdict final mercredi.
Le patinage artistique, grosse chance de médaille pour la France, tout comme le combiné par équipe en ski alpin avec une première épreuve dès ce matin, 10h30 après les 2 médailles récoltées hier. L'argent pour Mathias Desloges en skiathlon et l'or en biathlon avec le relais mixte. Pour ne rien rater, vous le savez, c'est sur RMC que ça se passe, radio officielle des Jeux Olympiques. Et puis un mot de football tout de même avec cette nouvelle humiliation subie par les joueurs de l'OM hier soir, battu 5-0 par le PSG au Parc des Princes, une première dans toute l'histoire du classique. Paris reprend ce matin sa place de leader de la Ligue 1 avec 2 points d'avance sur Lens, Lyon à la 3e place et Marseille 4e. Le quintet aujourd'hui, c'est à 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori, c'est le numéro 7, Automaille. L'outsider, c'est le 14, Talisman Touch.
Merci beaucoup, Élise Dangean. 7h36 sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et ce matin, on vous parle de ce triste titre pour la France. Nous sommes champions d'Europe des vols de voitures. 125 000 vols de voitures l'an dernier, des voitures qui sont volées grâce à la technologie. On vient en fait hacker votre clé, le numérique. La protection mécanique est plus efficace contre les vols de voitures, nous dit Eric ce matin. À l'ancienne, rien de mieux que les blocs volants, les blocs pédales. Voilà ce que pensait Eric, il l'a dit sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424. Bertrand nous raconte qu'en rendez-vous dans un hypermarché à 14h, il a fermer son véhicule, partir à un rendez-vous, 15 heures de retour, plus de voiture, plus un seul dossier, sacoche, valise. La police m'a expliqué que les voleurs restent à moins de 15 mètres, enregistrent les codes électroniques de ma clé. Et quand j'étais en magasin, ils ont tout vidé sans casser ni vitre ni serrure. Voilà ce que dit Bertrand. Ralph, un peu d'humour, il nous dit un peu d'autodérision pour se passer des infos tristes à la rigolade. Une voiture volée toutes les 4 minutes, nous à la maison, vu qu'on a 2 voitures électriques, si on les vole, ils iront pas bien loin. Voilà ce que nous dit Ralph ce matin, qui n'a pas une grande confiance dans l'autonomie de son véhicule. Vraisemblablement, vous réagissez ce matin au 32-16 aussi.
Merci Mathieu, il est 7h37. Autre sujet qui vous fait réagir, c'est cette exclusivité que vous dévoile RMC ce matin. 20% des entreprises vont publier dès cette année les grilles de salaire, conséquence d'une décision européenne qui va imposer davantage de transparence dans les salaires des différentes personnes à quelque niveau que ce soit d'une entreprise. Bonjour Bertrand Martineau.
Bonjour.
Vous êtes économiste, cette décision, elle va forcément avoir un impact. D'abord, comment ça va marcher? Et puis, est-ce que ça va créer des tensions? En tout cas, c'est votre point de vue et vous alertez ce matin. Et j'attends vos témoignages au 32-16. Vous réagissez depuis ce matin, cet auditeur notamment, commercial, qui nous disait « J'ai peur que ça nivelle tout vers le bas et que ça empêche d'avoir une rémunération au mérite. » Vous êtes chef d'entreprise ou au contraire salarié? Appelez-nous pour réagir au 32-16. Il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, il est 7h40 et vous écoutez RMC, vous regardez RMC Story. Vous allez bientôt pouvoir savoir combien gagne votre collègue de bureau. Conséquence d'une décision européenne. Bonjour Bertrand Martineau, vous êtes économiste, expert associé à l'Institut Montaigne. Votre livre, Le travail est la solution, réconcilier les Français avec le travail. Franchement, j'ai envie de vous dire, il y a du boulot. Il a été publié aux éditions Hermann. Précisément, je voulais vous interroger sur cette décision, donc l'Union européenne qui va demander à ce que les entreprises aient une transparence sur le salaire. Et à partir de juin prochain, on saura donc quels sont les salaires moyens des collègues à poste équivalent. Et ça va se passer comment ? Est-ce que certaines entreprises décident d'anticiper ?
Oui, alors plusieurs précisions. Déjà, c'est à partir de 2027 en fait, hein, voilà, pour les entreprises de plus de 150 salariés. Puis pour les plus de 100 à partir de 2031. Voilà. En fait, je précise qu'il ne s'agit pas de dévoiler les rémunérations par personne, ça reste anonyme. Donc c'est par groupe de salariés, par catégorie de salariés, on va dire. Et tout l'enjeu, c'est de déterminer dans chaque entreprise ou dans des branches professionnelles les catégories de salariés. Et l'entreprise devra effectivement dévoiler des moyennes ou des fourchettes. Voilà. Et donc, vous ne saurez pas forcément ce que gagne exactement votre voisin de bureau. En revanche, vous aurez une idée normalement assez précise de combien gagnent tous les gens qui sont dans votre situation dans la même entreprise.
Et donc, forcément, vous verrez si vous êtes au-dessus ou en dessous de la moyenne globale de votre entreprise. Oui. Est-ce que c'est une émulation ou est-ce qu'au contraire, vous redoutez que ça tire tout le monde vers le bas ?
Alors, une émulation, je ne pense pas. Alors, il y a quand même quelque chose de positif dans tout ça, c'est que il y a une demande d'équité, de transparence des salaires dans un contexte où notamment on conserve des inégalités salariales parfois injustifiées ou du moins pas expliquées. Donc là, les entreprises seront obligées de motiver des écarts importants.
Mais motivés auprès de qui ?
Motivés auprès des salariés qui en feront la demande. C'est-à-dire, d'accord, vous allez voir votre patron.
Donc vous pourrez aller voir le patron, dire voilà, comment c'est possible que je sois en dessous de la moyenne.
Exactement, voilà. Et là, le patron devra vous dire, bah, c'est parce que voilà, vous avez été moins performant, vous n'avez pas réalisé votre objectif, parce que vous êtes moins ancien que les autres collègues en moyenne, etc. Il faudra trouver des explications objectives. Donc, il y a une demande de transparence. Il y a un ensemble particulier qui est l'égalité homme-femme aussi au niveau des salaires, puisqu'il y a une attention particulière sur la réduction des écarts. Emploi égal, salaire égal, normalement. Ça, c'est la règle dans le Code du travail. En pratique, il y a, d'après l'INSEE, il y a encore pratiquement 4% d'écart entre les hommes et les femmes à emploi donné. Je précise, emploi donné,
oui,
et à temps de travail.
Quand on regarde
donné
vraiment avec, oui, le même temps de travail et sur un même poste,
oui,
il y a encore 4%,
oui,
de différence.
Alors, c'est pas facile à estimer, parce qu'il faut estimer ce qui est exactement le même poste, mais l'INSEE estime qu'on est un peu en dessous de 4%.
La question, elle fait beaucoup réagir. Oui. D'abord, sur les messages, Mathieu.
Oui, et ce message qui n'est pas signé, mais qui nous dit, perso, quand j'ai appris le salaire d'un de mes collègues, ça m'a permis de quasi doubler le mien.
Effectivement, ça peut être un bon outil de négociation, non ?
Alors, c'est un outil de négociation individuelle, ça c'est évident. Avec le bon côté des choses, c'est cette dimension transparence où personne peut être vraiment contre. Si ça reste anonyme, bien entendu, ça c'est un point important.
Alors, sur une entreprise de plus de 150 salariés, on se dit que l'anonymat peut être préservé.
Oui.
Quand ça viendra à des entreprises plus petites, c'est quasiment impossible.
Alors, la directive européenne précise que c'est obligatoire à partir de 100 salariés. En dessous, c'est des décisions nationales. C'est-à-dire que l'État peut décider, par la loi, peut décider de descendre en dessous de 100.
À court terme, lorsque vous allez apprendre effectivement qu'il y a certaines personnes qui, à poste équivalent, gagnent plus, ça peut être un levier, en effet, comme le dit cet auditeur, pour pouvoir négocier son salaire. À l'inverse, est-ce que à moyen terme, ça ne va pas décourager les patrons qui voudraient mieux rémunérer certains en se disant, bon, bah, je vais être obligé derrière de rémunérer tout le monde ?
Alors, juridiquement, non, c'est toujours possible de diversifier, notamment avec ce qu'on appelle des rémunérations accessoires, c'est-à-dire de l'intéressement, des primes de performance, tout ce que vous voulez. Donc, ça reste tout à fait possible. Simplement, il faudra le justifier. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait payer une personne A supérieure à une personne B, mais simplement, il faudra le justifier.
Il faudra pouvoir le justifier si on vous le demande. Cyril, voilà, vous pourriez être de ceux qui le demanderont. Bonjour Cyril. Vous êtes ouvrier à Bordeaux, et justement, vous vouliez réagir parce que vous avez entendu aussi cet auditeur tout à l'heure. Lui, il était commercial. Il était archi contre, parce qu'il considérait que ça allait niveler tout le monde vers le bas et que ça allait empêcher une rémunération au mérite.
Bonjour Apolline, bonjour tout le monde. Oui, moi je suis plutôt pour cette
transparence.
Ouais, voilà. Parce que moi, ça fait 15 ans que je suis dans mon usine, et je sais que les nouveaux embauchés, touche plus que ce que je touche. En fait, pendant 15 ans, on a eu énormément de mal à faire monter les salaires. Et maintenant, on sait que déjà que les nouveaux, enfin, ceux qui sont embauchés depuis 2, 3, 4 ans, touchent mieux que les anciens.
Ils entrent dans l'entreprise avec un salaire plus élevé que celui que le vôtre, alors que vous avez l'expérience?
Ben oui, puisque la justification, c'est que le marché du travail a augmenté, mais c'est vrai que les salaires n'ont pas suivi. Les salaires n'ont pas suivi dans l'usine, et c'est quelque chose de profondément injuste. Après, il y a les entretiens individuels où on remplit des objectifs. Moi, je suis à 40 heures par semaine, donc les heures sup, je les fais, contrairement à ce que disait l'auditeur
tout à l'heure.
Donc, il y a des gens qui font les efforts et qui ne sont pas forcément récompensés. Et le patron, en fait, se cache souvent derrière « c'est pas possible de payer plus ». Mais quand on parle entre nous, la transparence, on l'a pas exactement, parce qu'on sait pas exactement combien touche le collègue. Mais par contre, on sait qu'il y a des différences de salaire.
Et ça vous donnera un argument, ça vous donnera un argument supplémentaire pour aller voir votre patron. Vous bossez dans quel secteur, Cyril?
Je suis vraiment dans une usine de métallurgie.
D'accord, dans une usine de métallurgie et depuis très longtemps. Vous connaissez le patron. Ce que je veux dire, c'est que c'est une usine où il y a quand même une taille humaine. Vous connaissez le patron. Vous pouvez parler avec vos collègues, parler avec lui.
Le DRH, parce que nous, c'est une boîte de plusieurs centaines de personnes. Donc,
mais en tout cas, le DRH.
On peut avoir rendez-vous avec le DRH.
Cyril, restez avec nous, parce que justement, il y a un patron qui nous appelle, Michael, qui est chef d'entreprise dans le Nord, à Don. Bonjour, Michael.
Bonjour, Apolline.
Michael, vous vouliez réagir, vous aussi. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure. Vous avez combien de salariés, vous, Michael?
J'en ai 11.
Vous en avez 11. Alors, vous ne serez pas, à proprement parler, obligé de faire cette transparence. On l'a bien dit, c'est pour les plus de 150 salariés pour l'instant. Mais le principe même de cette transparence, vous trouvez que c'est une bonne chose ou au contraire, ça vous inquiète?
Ben, ça m'inquiète un peu, parce qu'en France, on sait que les salaires ont toujours été tabous. On a également un gros problème de jalousie, et le souci qu'il risque d'avoir, c'est que on va avoir des salariés qui vont se dire bon bah lui il gagne plus que moi, enfin les autres gagnent plus que moi, donc je ne fais plus rien, j'arrête là, et seront beaucoup moins motivés.
Et en même temps, quand vous entendez Cyril à l'instant, Cyril, je crois que vous êtes toujours avec nous d'ailleurs, quand vous entendez Cyril à l'instant qui dit « bah moi, quand j'ai été embauché, depuis, je stagne », alors que ceux qui sont aujourd'hui embauchés pour le même job que le mien, moi qui ai de l'expérience, qui ai de l'ancienneté, je suis moins payé qu'eux, vous comprenez que ce soit très décourageant.
Bien sûr, mais effectivement, alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a les salariés, il y a les ouvriers par exemple qui vont faire exactement le même travail, et là effectivement, il faut peut-être équilibrer les salaires sur des professions de cadre où on est plus sur du challenge. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, c'est vrai que je n'ai que des cadres.
Ouais, donc ça c'est ce qui va être difficile effectivement, ça va être cette obligation. Ce que vous dites aussi sur la question du tabou, de la jalousie, c'est vrai qu'en France, les salaires c'est assez tabou, c'est étonnant. Moi quand j'avais vécu aux États-Unis, c'est quasiment la première question qu'on vous demande, c'est combien vous gagnez. C'est tout à fait une question impossible ici. Est-ce que ça pourrait faire changer les mentalités?
Alors, il faut la question clé, ce sera la définition des catégories d'emplois équivalents. Alors, on saura mieux comment c'est fait à partir de la loi, puisqu'il faut une transposition en fait de cette directive. Elle ne s'applique pas directement. Donc, pour répondre à certaines questions, il faudra attendre la loi au plus tard au mois.
Mais au-delà de la question de la loi, effectivement, on a presque l'impression qu'en France, vous osez dire votre salaire quand vous êtes mal payé pour vous en plaindre. Mais si vous êtes bien payé, vous êtes hyper gêné et vous ne le dites pas.
Oui. Donc, il faudra, le point clé, ce sera de bien définir ces catégories de manière à ce que les gens puissent avoir des points de comparaison qui sont véritables, enfin qui sont vraiment valables en fait.
Avec une question qui est que la publication de ces salaires moyens, elle va aussi être rétroactive. Alors, est-ce que ça n'aura pas un impact aussi sur une sorte de rancœur plus large qui peut même conduire à aller saisir les prud'hommes en disant mais attends, comment c'est possible que j'ai été si mal payé par rapport à la moyenne de ma boîte?
Vous avez tout à fait raison, c'est le grand inconnu de cette affaire, et donc il faudra attendre les détails dans la loi qui ne seront pas des détails justement. C'est quelles sont les sanctions dans ce cas-là et comment va intervenir le juge, c'est-à-dire en gros les prud'hommes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passera quand des salariés qui se sentent floués iront devant les prud'hommes?
Donc, sachant que les prud'hommes sont, je crois, déjà embouteillés comme le reste de la
ville. Très embouteillés, puis encore plus les cours d'appel. Enfin, bon, c'est vraiment très compliqué, effectivement. Donc, est-ce que c'est un essor pour le dialogue social dans l'entreprise qui va définir les catégories, qui va enfin regarder de très très près les politiques de rémunération? Ça, c'est le versant positif. Le versant négatif, c'est qu'il y a un risque, effectivement, de contentieux.
Qu'est-ce qui peut, Bertrand Martineau, réconcilier les Français avec le travail?
Alors, eh bien, un sentiment de justice, c'est-à-dire que le travail paye premièrement, et que le salarié soit mieux considéré pour ce qu'il fait et justement rétribué. C'est en fait aussi simple que ça et aussi difficile en même temps.
Et c'est ce qui me frappe aussi dans le témoignage de Cyril. Effectivement, personne ne peut accepter qu'une situation pareille, c'est-à-dire quand vous faites le même geste, que vous travaillez dans la même usine, que vous avez l'ancienneté qui normalement devrait valoriser votre salaire, que vous soyez payé moins que ceux qui arrivent sur le marché.
Mais j'insiste sur le fait que ça peut attiser de la jalousie peut-être, mais en revanche, ça peut aussi, dans d'autres sens, rassurer, c'est-à-dire que détruire en fait des fantasmes. Il y a des gens qui pensent que leurs voisins de bureau sont payés deux fois plus et s'apercevront que c'est pas vrai.
Merci beaucoup. Merci à vous, Bertrand Martin. Merci d'avoir répondu à mes questions. Économiste associé à l'Institut Montaigne, votre livre Le travail est la solution. Réconcilier les Français avec le travail. Et puis merci aussi à Cyril et à Michael pour leur témoignage. Il est 7h50 sur RMC. Notre voix de droite du lundi est dans ce studio. Bonjour Charles Consigny.
Bonjour Apolline.
Charles, vous êtes avocat, vous êtes grande gueule sur RMC. Écoutez ça, c'était hier soir chez nos confrères de BFM TV.
Si je vous demande le prix du pass Navigo mensuel à Paris.
Annuel 52.
Non.
50 euros mensuels, enfin annuels, dit-elle, au lieu de 90 euros mensuels. On est totalement hors des clous. La gaffe donc de la candidate à la mairie de Paris, Sarah Knafo, gaffe ou surtout inconstance. Pour vous, Charles, c'est le symbole d'une déconnexion de nos élus?
Oui, c'est-à-dire que Sarah Knafo est la nouvelle icône des boomers de droite qui s'encanaille avec son sourire et son discours radical. Moi, je pense que malheureusement, elle révèle par cette maladresse le fait qu'elle fait de la politique pour rouler en carrosse.
Et vous nous le direz dans un instant, il est 7h52 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, Charles Consigny. Mais d'abord, le bonus, Mathieu. Cette nuit, c'était le 60e Super Bowl.
Oui, et les Seahawks de Seattle l'ont emporté face aux New England Patriots, à Pau. Bon, c'est rarement ce qui nous intéresse de ce côté de l'Atlantique.
Ça, je suis content de l'apprendre.
Le portoricain Bad Bunny a assuré le spectacle de la mi-temps, ce qui a passablement mis Donald Trump en colère. C'est en opposant sa politique migratoire. Un compatriote figurait parmi les invités, Ricky Martin, c'est lui que vous entendez. C'est un spectacle presque entièrement en espagnol, c'est ça qui a agacé Trump. Le ton était au message de paix et d'amour. Lady Gaga était de la partie elle aussi, pour reprendre un de ses tubes en version latino s'il vous plaît, avant d'esquisser quelques pas de danse avec Bad Bunny. Et puis un final très remarqué. Derrière ce Dieu bénisse l'Amérique, il fallait comprendre les Amériques. Le chanteur a nommé tous les pays du continent, du nord au sud. On a vu des drapeaux, y compris le nôtre d'ailleurs, sans doute pour les Antilles et la Guyane. Fin du spectacle ensuite et retour au sport.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Il est 7h54 et c'est la voix de droite comme tous les lundis. Charles Consigny. Charles, avocat, grande gueule d'RMC. Alors vous l'avez entendu, elle a été interrogée sur BFM TV hier soir. La candidate reconquête à la mairie de Paris, Sarah Knafo, ne savait absolument pas, mais alors même pas l'ordre de grandeur de ce que coûtait un pass Navigo. Elle a affirmé que ça coûtait 52 euros par an. C'est en réalité 90 euros par mois. C'est une boulette, c'est une incohérence, c'est une incompréhension, c'est une méconnaissance. Ça passe pas en tout cas.
Je pense surtout que c'est une déconnexion de la réalité. Il faut savoir effectivement que le métro coûte cher à Paris, qu'en plus à ce prix-là, c'est un service qui est très souvent dégradé, où il y a très souvent des problèmes. Et moi, je suis assez frappé par cette génération nouvelle d'hommes et de femmes politiques qui se prétendent différents, qui font la leçon à tout le monde sur les plateaux télé, qui se veulent anti-système et qui en réalité font de la politique pour avoir une espèce de carrière de showbiz, si vous voulez.
Et ce qui est sûr, c'est que, alors, depuis, elle a plaidé le lapsus, elle a dit que elle avait mélangé le chiffre qui vous reste quand votre employeur a déjà payé la moitié, tout ça. Mais enfin bon, bref, y a rien qui va. C'est pas la seule à avoir fait ce genre de boulette, entre guillemets.
Bon, Sarah Knafo se veut anti-système, elle est énarque, court des comptes. En réalité, elle est dans les mêmes travers que les autres. Moi, ça m'a rappelé le moment de grâce de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui d'ailleurs, candidate elle aussi à la mairie de Paris, avait été incapable de donner le prix du ticket de métro et s'était finalement hasardée sur le chiffre de 4 euros. Avant de dire qu'effectivement, il y avait des moments de grâce, ça me rappelle...
Des moments de grâce dans le métro,
Agnès Pannier-Runacher qui disait que à l'usine, il y avait de la magie sur les chaînes de production. Tout ça avant de remonter dans sa voiture avec chauffeur et d'aller déjeuner aux frais de la République. Donc voilà, je pense que tout ça est assez... assez fatigant. On peut parler des vacances d'Hidalgo à Tahiti ou du dressing très chic de Jeanne d'Auxerre, la mère du 8e qui avait sidéré tout le monde avec ses frais de vêtements. Je plaide pour une espèce d'obligation morale à faire l'épreuve, à connaître l'épreuve du réel avant de s'engager en politique. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à la vie politique française.
Quand vous entendez François Ruffin qui dit « Moi, je veux être le premier président de la République » au SMIC. Est-ce que vous vous dites, tiens, ça, oui, c'est le sens du réel ou est-ce que c'est des magots ?
C'est un peu les deux. C'est-à-dire, Ruffin, il est député au SMIC déjà, quand même. Et je pense.
Enfin, député au SMIC, c'est-à-dire qu'il ne se verse que le SMIC.
Il donne le reste à son parti. Bon, ou à je ne sais qui. Enfin, à voir le détail. Bon, évidemment qu'il y a là-dedans un petit peu d'affichage, de com, etc. Mais je pense que ces symboles comptent et surtout. Vous savez, on m'a appris en première année de droit, on faisait un peu de sociologie, on nous disait on pense comme on est socialement. Et alors c'est vrai, quand on est député européen, on est très bien payé. Je crois qu'on est d'ailleurs exempté d'impôts, ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Il faudrait que les élus et les fonctionnaires européens payent des impôts comme tout le monde. Il n'y a pas de raison que ces gens touchent des fortunes. Un commissaire européen, c'est 35 000 euros net par mois, hein, plus le chauffeur, plus les notes de frais. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas comme tout le monde tondus par l'État. Ils comprendraient ce que vivent la plupart des gens. Ça vaut donc aussi pour Madame Knafo. Je pense qu'elle peut pas tenir ce discours soi-disant libéral, soi-disant tronçonneuse, etc. Et en fait, avoir une vie de princesse, c'est pas possible. Il faut se mettre dans la réalité. Et moi, je pense que l'épreuve du réel, vous voyez, moi-même à ma petite échelle, je suis avocat, je ne suis pas que éditorialiste, etc. Je gère un cabinet, je paye des charges, je vais chercher des clients, je vis tout ça. Et je tiens à vivre tout ça. Et je me serais senti ridicule, en réalité, si j'étais tombé dans la politique tout petit et si je n'avais fait que ça, parce que je pense que je n'aurais rien connu du réel. Or, la politique, c'est la transformation du réel.
Merci beaucoup, Charles Consigny. La politique, c'est la transformation du réel. Encore faut-il connaître le réel. Il est 7h58. On se retrouve dans un instant pour la météo, le journal et l'économie avec Emmanuel Le Chypre. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.